Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à Isabelle. Il reste pour clore cette matinée 30 minutes et 4 intervenants autour d'une question. La démocratie participative, réponse à la crise des territoires. Il y a évidemment un point d'interrogation. Vous allez successivement entendre Loïc Blondiot, qui est professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Hervé Lebras, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public. Mais on commence avec André Cartapanis, membre du Cercle des économistes, à qui je vais demander, cher André, est-ce qu'on moi, je n'ai pas fait d'économie, nul n'est parfait, mais j'ai quand même entendu parler de l'homo economicus et de ses décisions rationnelles. Et donc, est-ce que l'homo democraticus est capable de prendre des décisions rationnelles dans le cadre de la démocratie participative ?
Bon, je ne suis pas sûr que les économistes aient le monopole de la rationalité. Bon, en tout état de cause, je voudrais essayer d'examiner la question qui nous a été posée et de voir quel est le type de réponse qui finalement peut être formulée. La question est simple, est-ce que la démocratie participative est une réponse à la crise des territoires ? Je crois que là, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que la crise qui a été observé parmi les territoires, bien sûr, est lié à des tendances lourdes, celle de l'agglomération des activités, celle de la mondialisation, tout ça est très bien connu. Mais en même temps, ça a cultivé un sentiment d'abandon, un sentiment d'exclusion dans ce qu'on appelle la périphérie, cette périphérie d'ailleurs pouvant très bien se retrouver au centre de grandes métropoles. C'est le cas dans la ville où je me trouve, à Marseille par exemple, où la périphérie est au cœur, finalement, du centre-ville. De même, la question est pertinente parce que les politiques publiques, à l'évidence, doivent être beaucoup mieux contextualisées compte tenu de l'hétérogénéité de l'espace, des problèmes qui se posent. Et puis, il est important aussi de responsabiliser les parties prenantes et donc de se retrouver dans une démarche beaucoup plus participative, du côté donc de ce que sont à la fois les définitions et les mises en œuvre des projets. Et donc la question est pertinente, telle qu'elle a été formulée, compte tenu de ce que sont les éléments que je viens de rappeler. Mais se pose après la question de savoir si la réponse elle-même doit être positive. Et là, pour ma part, en n'étant pas spécialiste de ces questions, je suis prudent, je suis beaucoup plus partagé du point de vue de ce qu'est véritablement la réponse qui pourrait être apportée par le développement d'une démocratie participative, pour plusieurs raisons. Bien sûr, cette ingénierie de la démocratie est beaucoup à la mode. On voit aujourd'hui, par le jeu récemment du Grand Débat, la Convention citoyenne sur le climat, les conseils de quartier, et y a-t-il un candidat au municipal qui n'a pas dans sa valise de propositions des éléments qui relèvent de la démocratie participative. Mais je crois qu'il y a quand même des limites. Premièrement, il y a à l'évidence une offre de démocratie participative dans les classes politiques locales, également chez un certain nombre d'experts, parce que c'est aussi un marché, parce que c'est très lourd à mettre en œuvre, la démocratie participative. Mais existe-t-il véritablement une demande pour une démocratie participative ? Plutôt qu'une demande pour des résultats, pour une amélioration du sort d'un certain nombre de segments dans les territoires. On sait bien que lorsque ce type de démarche est mis en œuvre, ce sont les CSP++ qui sont les plus actifs, plutôt que ceux qui sont le plus touchés par les inégalités territoriales. Deuxième argument qui me fait un petit peu douter de l'ampleur de la réponse à la question posée, c'est le risque d'instrumentalisation ou de capture de ce type de démarche vers des petits sujets ou bien simplement dans une sorte de présentation de la part des politiques du regard qu'ils porteraient pour qu'il y ait beaucoup plus de participation. Et du coup, on touche là à la troisième interrogation que j'ai du point de vue de la nature et de l'origine des inégalités territoriales. Je crois que ces inégalités, ça a été magnifiquement mis en avant dans un rapport récent du Conseil d'analyse économique, obéissent quand même à des tendances lourdes, à des tendances qui sont liées à ce que sont les logiques d'implantation sur le plan des activités économiques, également du point de vue d'une forme de mise en retrait de l'État central dans un certain nombre de domaines qui relèvent des services publics. Et donc ces inégalités, elles sont quand même assez largement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des grandes infrastructures, dans le domaine des connexions sur le plan de la mobilité, comme du point de vue de l'accès à l'information. Et tout ça ne relève pas du local, relève d'abord de l'État central. Et donc c'est la raison pour laquelle, si on s'intéresse vraiment à une sorte de recontrôle, de contrôle renouvelé des problèmes de foncier, si on s'intéresse par exemple à la carte sanitaire, si on s'intéresse à la carte en matière d'offres scolaires ou universitaires, ces questions, me semble-t-il, recouvrent d'abord la responsabilité de l'État. L'État qui, malheureusement, ne se situe pas suffisamment à l'échelle des territoires, et il me semble que, sans mettre en cause l'utilité d'une démarche plus participative à l'échelle locale, c'est d'abord à l'échelle nationale que la dimension territoriale devrait être prise en compte. Je vous donnerai un seul exemple et je conclurai là-dessus. Imaginons par exemple qu'au moment de la présentation de la loi de finances, qui est présentée par grandes fonctions, y compris avec des détails du point de vue de ce que sont les divers types d'utilisation des fonds publics, eh bien on y adjoigne des cartes qui mettent en avant ce que sont justement les distributions territoriales. Là, il y aurait, me semble-t-il, un grand progrès, mais qui ne relève pas de la démocratie participative locale, mais d'une autre forme de démocratie à l'échelle de l'État. Merci.
Merci beaucoup, André Cartapanis. Notre deuxième intervenant pour la conclusion est donc Loïc Blondiot. On l'a vu et on le sait, les dispositifs qui visent à faire participer les citoyens aux décisions, je ne parle pas ici des élections, hein, mais ces dispositifs se multiplient à tous les échelons. Le dernier acte fort dans ce domaine, ça a été la création de la Convention citoyenne pour le climat, dont fait partie Loïc Blondiot. Alors, est-ce que tout cela, ce sont des pistes sérieuses ou est-ce que c'est du citizenship washing, comme il y a du greenwashing? Merci d'accueillir Loïc Blondiot.
Bonjour, merci pour cette invitation. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur les questions de démocratie participative, et si je travaille sur cette question, c'est qu'elle m'intéresse et que j'y crois. Et je vais peut-être un peu vous surprendre, mais je suis assez d'accord avec l'intervenant précédent sur une partie de son argumentation. Alors, je pense qu'il faut replacer cette question aujourd'hui de la démocratie participative dans les territoires dans une problématique beaucoup plus générale, qui est celle de l'épuisement des institutions classiques de la démocratie représentative, épuisement, voire même effondrement. Se multiplient les écrits qui aujourd'hui parlent de la mort des démocraties, en tout cas telles que nous les avons mis en place, conçues et pratiquées depuis maintenant plus de deux siècles. Et ce moment-là, qui est un moment d'interrogation sur à la fois l'efficacité de ce modèle politique, qui justifie pour certains le recours à d'autres modèles politiques, ou sur la légitimité de la représentation telle qu'on la conçoit, ce moment-là est un moment de retour de l'imagination politique. Nous sommes en train de réfléchir à de nouvelles procédures, à de nouvelles stratégies d'inclusion des citoyens dans le processus de décision. Alors, il y a trois, à mon avis, voies ouvertes dans ce moment précis. Il y a une première voie qui me semble une impasse, et ça a été dit par mon prédécesseur, c'est la démocratie participative telle qu'on la pratique habituellement, de la manière la plus courante, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale, qui laisse exister des exceptions, mais qui est là clairement, pour reprendre l'expression d'Emmanuel, du democratic washing. On fait en sorte que tout change pour que rien ne change. Et le paradoxe, c'est qu'on ne fait de plus en plus de participation de ce type. On l'a vu avec le grand débat, on l'a vu avec un certain nombre de consultations à l'échelle nationale, on le voit quotidiennement à l'échelle locale. En aucun cas, ces exercices participatifs n'ont d'influence sur la décision. Et ils ne sont pas conçus ni censés avoir la moindre influence sur la décision. Et ça engendre un nombre de frustrations tout à fait considérables. Et compte tenu de l'élévation du niveau d'exigence, compte tenu des citoyens, compte tenu de l'élévation du niveau de défiance des citoyens à l'égard des représentants, on ne fait qu'entretenir le mal au lieu d'essayer de le régler en légitimant la décision par ce moyen-là. La deuxième voie, c'est la voie qui consiste à renverser la table. C'est-à-dire, c'est la voie de l'alternative. Elle peut prendre différents visages. C'est le RIC demandé par les Gilets jaunes. N'oublions jamais que les mobilisations actuelles, partout dans le monde, font surgir cette question de la représentation et de la légitimité. Elle est au cœur révolutions auxquelles on assiste aujourd'hui. Et les Gilets jaunes ont mis la question démocratique au centre, mais en disant, il faut que les citoyens récupèrent le pouvoir. Nous n'avons plus besoin de représentants. Et il y a cette tentation qui existe et qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a une autre stratégie aujourd'hui qui est à l'œuvre dans le contexte présent des municipales, qui est la stratégie de la relocalisation du pouvoir politique et de la légitimité dans les territoires. C'est ce qu'on appelle le municipalisme. Et ce municipalisme, c'est enfin, pour une fois, une forme de cadre de pensée et de cadre institutionnel alternatif à la démocratie. Démocratie représentative telle que nous l'avons conçue jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que le municipalisme ? C'est redonner le pouvoir aux citoyens à l'échelle locale. C'est leur permettre de gérer ensemble les communs. C'est envisager aujourd'hui l'organisation politique autour de la fédération d'entités démocratiques locales. Et c'est ce que promeuvent un certain nombre de ces listes municipalistes. Certaines sont les faunées de partis politiques traditionnels, mais quelques-unes tente de mettre en œuvre ce nouveau paradigme politique qui me paraît devoir être pris tout à fait au sérieux. C'est quelque chose qui nous vient de Proudhon, de l'anarchisme, de Kropotkin, des grands théoriciens de l'anarchisme sont les théoriciens de la fédération des communes, la fédération des assemblées citoyennes. Alors évidemment, cette voie-là, elle se heurte à un certain nombre d'obstacles. Le premier, c'est que pour arriver au pouvoir et mettre en place ce programme, il faut jouer le jeu des institutions traditionnelles qui sont relativement fermées à ce type d'initiative et qui obligent à faire des compromis avec sa propre conception de ce que devrait être l'horizontalité démocratique. Et puis la troisième voie, c'est celle que la Convention citoyenne pour le climat incarne, c'est celle d'une vraie démocratie délibérative, c'est-à-dire de la mise en place de dispositifs complémentaires à la représentation, mais qui permettent aux citoyens ordinaires de participer à l'élaboration des décisions, mais sur un mode vraiment de prise en compte de leur contribution. Alors là, les conditions, on les connaît. Les conditions, c'est la qualité de l'ingénierie démocratique. Il faut mettre en place un certain nombre de moyens, c'est ce que fait la Convention citoyenne. Il faut une certaine impartialité des orgues de l'organisation. Ce comité de gouvernance dont je fais partie, qui a piloté le dispositif, n'est pas sous l'influence du gouvernement qui a mandaté cette convention citoyenne. Il faut qu'il y ait un lien avec la décision et donc qu'il y ait un engagement préalable du pouvoir politique. Là où le pouvoir politique n'entend pas se lier les mains en tout ou partie, on ne lui demande pas de s'incliner et de suivre toujours l'avis des citoyens, mais on lui demande à minima de rendre des comptes, de se justifier et de temps en temps de prendre en compte ce que disent les citoyens. Et puis, il y a un point très important, c'est le temps. Il faut du temps. Et quand on voit les 150 citoyens capables aujourd'hui, ici et maintenant, en quelques mois, avec l'accompagnement d'un certain nombre d'experts, les voir capables, ce qu'ils sont en train de faire ce week-end, là en ce moment, à 300 mètres d'ici, produire des mesures en forme législative permettant, on l'espère, de limiter de 40% les émissions de gaz à effet de serre de 2030, cela donne confiance dans l'intelligence collective et la capacité des citoyens ordinaires à vraiment participer au processus de décision. Voilà, merci.
Merci beaucoup à Loïc Blondiot, c'est Hervé Lebras, directeur d'études à l'EHESS, qui vous succède. On oppose souvent, et ça a été fait beaucoup au cours de cette matinée, les métropoles dynamiques, les périphéries à la traîne. André Cartapanis souligne à l'instant que dans certaines villes, et non des moindres, Marseille, la périphérie était au centre. Et dans plusieurs endroits du centre, d'ailleurs, c'est presque comme un... je ne sais pas quelle image choisir. Le pointillisme ou l'impressionnisme. Est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce qu'on en a fini avec l'opposition ancienne entre pouvoir central et reste du pays? 7 minutes.
Merci pour votre invitation. À première vue, en effet, le contraste entre les grandes villes et les zones rurales en France est devenu saisissant. Ça explique d'ailleurs la fortune du terme métropole et périphérie. Bien sûr, les grandes villes ont toute la gamme des services. Elles jouissent d'un revenu médian plus élevé que la moyenne nationale. Elles possèdent une proportion plus importante de cadres et de professions libérales. Aussi de diplômés de l'université ou des grandes écoles. Elles abritent aussi une population plus jeune en raison de l'afflux des étudiants. Cependant, il serait faux d'en déduire que tout va mal dès que l'on quitte les métropoles. Les petites villes et les villages ont leurs avantages. Le chômage y est nettement inférieur à celui des grandes agglomérations. Le niveau de pauvreté y est nettement plus faible. Et en conséquence, les inégalités y sont réduites. Même dans le domaine social, les familles monoparentales, qui sont les plus pauvres en France, et les personnes isolées, y sont plus rares. Donc on peut se demander d'où provient le malaise qui règne hors des grandes agglomérations. Et paradoxalement, c'est la conséquence d'une dynamique positive. En 1968, 94% des agriculteurs qui étaient encore majoritaires dans les petites communes n'avaient pas continué leurs études au-delà du brevet. Aujourd'hui, 75% sont titulaires d'au moins un CAP et très souvent d'un bac. Les ouvriers, qui sont maintenant plus fréquents à la campagne que dans les villes et leurs banlieues, ont aussi un bagage éducatif beaucoup plus important qu'il y a 50 ans, même si le changement est moins spectaculaire que chez les agriculteurs. Tous estiment avoir le droit de connaître les déterminants exacts des mesures décidées par le gouvernement et d'en discuter l'application là où ils résident, puisqu'ils sont éduqués. La composition sociale a aussi beaucoup changé en milieu rural et dans les petites villes. En 1968, les cadres et professions libérales n'étaient que 1% de la population active dans les communes de moins de 1000 habitants. Ils en représentent maintenant 9%. Dans les communes de 1000 à 10 000 habitants, le pourcentage est passé de 3% à 12%. Et une conséquence inattendue de ces changements est que depuis l'année 2000, les revenus ont augmenté plus vite à la campagne que dans les grands pôles urbains et leur couronne. Si vous combinez tous ces éléments et l'élévation générale du niveau de vie, les populations qui sont éloignées des villes ont une plus grande dépendance des services. Dans le moindre village, il faut pouvoir se rendre chez un médecin spécialiste ou bien un guichet bancaire, envoyer des colis, acquérir des objets techniques, les faire réparer. Autrement dit, il faut faciliter la mobilité vers les services situés dans les villes voisines. Et vous avez vu que ce thème de la mobilité a été important dans toute la séance dans toutes les séances de ce matin. Or, depuis que le pouvoir a été pris par Emmanuel Macron en 2017, la mobilité a été attaquée très fortement dans le rapport qu'elle entretient entre les zones rurales et les grandes villes et métropoles. Vous savez, je ne vais pas rappeler, mais il y a eu la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales, le renforcement du contrôle technique, le haro mis sur le diesel, et finalement la taxe écologique qui compromettait à répétition. Et vous savez que la réponse à cette politique systématique a été un embrasement des gilets jaunes. Je n'ai pas le temps de poursuivre sur l'hétérogénéité des territoires, mais je dois signaler que une fois qu'on a considéré l'opposition entre cette soi-disant périphérie et ces soi-disant métropoles, les différences sont très grandes, même entre métropoles et même entre périphéries. Quelqu'un a parlé ce matin de Abbeville. C'est une ville de 22 000 habitants, pas loin de la mer, à une cinquantaine de kilomètres de Amiens, qui était la métropole régionale. On va comparer à une ville semblable, Guérande, qui est pas loin de la mer, qui est à 60 km de Nantes. À Abbeville, à Guérande, on entre dans les 10% les plus pauvres à 11 000 euros par an, selon la banque de données communale du ministère de l'économie. à Abbeville, on entre, on tombe dans les 10% les plus pauvres à 1800 euros par an. 1800 à 1000, à 11 000, c'est 1800, c'est 6 fois moins. Donc, il y a d'extraordinaires différences dans les territoires. Et juste pour en juger, je vais faire de la réclame ou de la publicité à, au journal qui a été l'un des organisateurs, puisque j'ai fait, au fond, l'interview introductive à 40 cartes pour comprendre la France, où je développe beaucoup plus ce que je viens de vous dire très rapidement, parce que quand on compare la plupart des indicateurs, chômage, aussi pauvreté, proportion de familles monoparentales, jeunes sans diplôme, il y a deux France. Il y a une France qui est celle du Nord-Est, qui est celle de la bordure méditerranéenne, de la zone centrale de la vallée de la Garonne. Et cette France-là est une France qui conjugue la plupart des problèmes. Et je rejoins de ce point de vue-là ce que nous a dit Philippe Aguillon. Il se trouve, c'est aussi cette France-là qui vote pour le Rassemblement national. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, cher Hervé Lebras. Et pour conclure cette session et cette matinée, je vous demande d'accueillir Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public, une commission... Vous pouvez, j'entends des applaudissements, mais oui. Une commission nationale qui a été créée voici 25 ans. Alors qu'a-t-on appris, Chantal Joanneau, au cours de ce quart de siècle, et surtout en quoi ces enseignements permettent-ils de dessiner des chemins pour le futur? Vous avez la parole.
Merci, merci pour le plaisir d'intervenir ici sur ce sujet. D'abord, je vais peut-être commencer. Je veux remercier André pour votre intervention parce qu'elle pose de la tension dans le sujet, parce qu'on a trop souvent tendance à répondre spontanément oui. Et c'est vrai, est-ce que la démocratie est une réponse participative, est une réponse à la crise des territoires? Elle a été pensée comme telle par la déclaration de Rio, par la convention d'Aarhus, qui a posé comme principe que la participation du public à l'élaboration d'une décision allait automatiquement améliorer cette décision, en particulier dans le domaine environnemental. Et c'est sur cette base qu'on a été créé, effectivement, il y a 25 ans, la Commission nationale du débat public. Et nous, qu'est-ce qu'on a constaté? On constate que la démocratie participative à l'échelle du territoire, ça marche. Ça marche très bien. On a garanti plus de 450 concertations, on a fait une centaine de débats publics, et systématiquement, plus on est proche du territoire, plus le sujet dont on parle, le projet, est un projet à court terme, plus il y a de la mobilisation. On fait 5000 personnes facilement sur un projet de métro à Lyon, alors que sur le même territoire, quand on parle d'un énorme projet d'infrastructure ferroviaire à un horizon de 40 ans, vous mobilisez difficilement 3000 personnes. Donc ça, c'est une évidence qu'il fallait rappeler. Le deuxième élément qui est assez frappant, c'est cette demande de territorialisation des politiques, et pas simplement pour des projets qui sont spontanément locaux. C'est évident pour un projet de métro, mais on a fait les débats publics sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc cette programmation sur 10 ans. Et ce qui est ressorti très fortement comme message, à part la question de l'injustice sociale vécue, et ça on l'avait dit bien avant la crise des Gilets jaunes, mais ce qui est ressorti très fortement, c'était cette demande de territorialisation. Donc sur des sujets qui sont, la politique énergétique a été pensée à l'échelle nationale, et les Français, en tout cas, nous ont dit l'inverse de ce que vous disiez, à savoir, nous, on veut que cette politique, elle soit territorialisée, y compris sur des objets qui sont d'habitude des objets nationaux, et on l'a vu même sur le débat sur les déchets radioactifs, qui sont vraiment des déchets qui, là, en l'occurrence, sont pensés et gérés à l'échelle nationale. Un troisième constat qui est particulièrement intéressant ici, puisqu'on a des économistes, c'est la très faible mobilisation de l'argument économique dans les débats. C'est-à-dire que quand vous dites « mon projet est très bon parce qu'il va créer de la croissance », ça n'a aucun impact. La croissance, l'argument macro, les gens nous disent grosso modo, ça les touche assez peu. Mais même l'argument micro, c'est ça qui est peut-être plus étonnant. On a récemment fait une grosse concertation autour du terminal 4 de Roissy, en disant sur ce territoire, ça va apporter des emplois supplémentaires, donc c'est un argument qui va être mobilisé par le public. Il a été très fortement par le maître d'ouvrage et très très peu par le public, mais quasiment pas du tout. Le public n'ayant jamais pensé ses emplois pour lui, il a plutôt pensé les nuisances environnementales qu'il a subies, qu'il allait subir, il a plutôt pensé la difficulté de transport, mais pas l'argument économique. Ça, c'est un point aussi que je voulais soulever ici. Autre point très important, et je voudrais rebondir justement en particulier sur ce que vous avez dit, sur le en quoi est-ce que ça peut améliorer une décision et pourquoi peut-être que parfois on ne constate pas que ça améliore la décision. Parce que la clé du sujet est là, et d'ailleurs Loïc l'a très bien rappelé tout à l'heure, c'est le lien à la décision qui est la clé du sujet. La participation en tant que telle, en tant qu'œuvre de communication par le décideur et pour le décideur, c'est pire que tout. C'est vraiment la condition de la défiance. Il n'y a rien de tel pour augmenter la violence. La participation où le décideur prend un engagement ferme de répondre, d'écouter déjà, et de répondre, ça fonctionne extrêmement bien. Donc le lien à la décision, je vais juste l'illustrer, c'est pour ça que je suis venue avec des documents. Vous avez un exemple très très clair, la participation qu'on a fait sur le terminal 4. C'est Aéroport de Paris, dont certains peuvent penser que ce n'est pas nécessairement le meilleur élève en la matière. Voilà la réponse du maître d'ouvrage. Un document de 70 pages détaillé où il répond point par point à toutes les observations qui ont été faites pendant la concertation. Participation, débat public que nous avons organisé sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. 10 000 personnes ont participé, ça a été vraiment un très très beau débat. Voilà la réponse du gouvernement, et je suis sympa parce que je n'y ai pas imprimé recto verso. Donc ça fait 2 pages, ça fait un petit peu plus. Il ne faut pas s'étonner après ça qu'effectivement ça crée énormément de défiance. L'autre point extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas penser la participation comme une œuvre de pacification. Ça, on n'a jamais constaté que plus on faisait de la participation, moins il y avait de conflits. Ce n'est pas là pour ça. Ce n'est pas là pour faire passer des projets. Ça supposerait qu'on pense que la participation, c'est fait pour faire passer des politiques ou des projets. Non, c'est fait pour penser l'opportunité d'un projet. Et si un projet n'est pas bon, il n'y a aucune raison qu'il ne suscite pas d'opposition. Donc, il faut penser la participation du point de vue du public. Ce qui est important, c'est que le public ait le droit d'être informé de l'existence de ce projet et le droit de participer à son élaboration, y compris en disant non à ce projet. Et pour que ça marche, c'est aussi très important ce que vous avez dit, André, tout à l'heure. C'est vrai que quand on fait une procédure de participation portes ouvertes, il n'y a que les CSP+ qui viennent s'exprimer. Parce que ce sont des personnes à fort capital culturel et qui ont suffisamment confiance en elles pour pouvoir s'exprimer. Donc, une bonne participation doit aller chercher ce public le plus éloigné. Et c'est en cela qu'elle est intéressante pour le décideur, puisqu'elle va lui amener une parole qu'il n'entend pas dans les cercles qu'il a l'habitude de fréquenter. Quand on fait de la participation avec les personnes qu'on entend toujours, ça n'apprend rien aux décideurs. Mais quand on arrive à aller chercher ces personnes à faible capital culturel, qui sont trop timides, qui ne lèvent jamais la main, parce qu'elles s'estiment moins légitimes, là on apporte aux décideurs. Donc une bonne participation, elle doit être frappée du principe d'inclusion. Voilà, David.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je voudrais continuer par des applaudissements pour vous. D'abord, vous êtes venus en pleine période coronavirus. On vous en sait gré. Et merci évidemment beaucoup au Cercle des économistes qui a conçu cette journée et à tous les intervenantes et intervenants. Je crois que le prochain rendez-vous pour le Cercle, ça va être Aix, non, c'est ça, ou il y en a encore avant? C'est Aix. Allez, Aix. 3, 4, 5 juillet pour les rencontres économiques. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez une belle journée. Au revoir.
Merci, allez-y.